France Culture.
Vous écoutez les Nuits de France Culture, la nuit consacrée aux éditions de Minuit se poursuit, en compagnie d'Anne Renoux, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, une des commissaires de l'exposition Les combats de Minuit, avec Bérénice Stoll et Séverine Dupuche-Garnier, à la BNF donc depuis le 9 octobre, et en compagnie également d'Anne Simonin, chercheur au CNRS, auteur entre autres de Les éditions de Minuit 1942-1955, Le devoir d'insoumission. Au cours de la première partie de cette nuit, nous avons vu comment, dans quelles circonstances, sont créées les éditions de Minuit, l'arrivée de Jérôme Lindon et ce qu'il faut bien appeler sa prise de pouvoir. Nous sommes maintenant en 1950, à un tournant de l'histoire des éditions de Minuit. En 1950, à part pour quelques-uns, Samuel Beckett est un illustre inconnu. Comment Beckett arrive-t-il aux éditions de Minuit? Les versions de Georges Lambrix et de Jérôme Lindon concernant son arrivée donc divergent. Mais d'abord, peut-être, Anne Simonin, qui est Georges Lambrix et quel a été son rôle chez Minuit.
Georges Lambrix est le directeur littéraire des éditions de Minuit parce que jusqu'en 1948, Jérôme Lindon n'est qu'un employé de la fabrication. Alors, qui est monté en grade parce que Paul Silva Coronel s'est éloigné des éditions à partir de 1947, mais la direction littéraire de la maison est assumée par Georges Lambrix, qui ensuite fera une très longue carrière à la nouvelle revue, aux éditions Gallimard, et qui créera la collection Le Chemin. Donc, Beckett est un des grands refusés des années 50, et il faut bien voir que le catalogue de Minuit, Jérôme Lindon dira toujours que c'est un miracle que Beckett soit arrivé jusqu'aux éditions de Minuit. Moi, j'aurais tendance à penser que Minuit s'étant en quelque sorte constitué par les refusés. C'est-à-dire que ce qui arrive aux éditions de Minuit en 49, en 50, c'est des gens qui s'appellent Georges Bataille, Pierre Klossowski, Maurice Blanchot, qui sont les trois grands refusés Gallimard, mais aussi André Dautel. Et si vous voulez, c'est un moment où c'est parce que Gallimard maintient en stand-by certains de ses auteurs que Minuit fonctionne en quelque sorte comme une annexe ou comme un pôle des refusés Gallimard. Ce sont des auteurs qui viennent vieillir chez Minuit et qui viennent pour des façons circonstancielles parce que il y a un trop grand embouteillage dans un contexte, encore une fois, de pénurie de papier. Mais on fait pas une maison d'édition pour que des gens viennent vieillir chez vous. C'est-à-dire, on commence pas quand on rentre dans les lettres par créer un EHPAD. Donc, il y a un moment donné où vous avez envie de dire qu'est-ce qui va se passer de nouveau et qu'est-ce que va créer en quelque sorte la maison d'édition et l'arrivée de Beckett, fondamentalement. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un auteur qui, effectivement, est de la génération de qui pourrait être le père de Jérôme Lindon, mais qui n'a rien publié ou publié des textes dans des revues et qui vient naître aux éditions de Minuit. Et c'est le moment où, faut pas, la racine du mot éditeur, c'est le mot éditéré, c'est-à-dire c'est porté à la connaissance du public. Et là où il y a acte de naissance de Jérôme Lindon en tant qu'éditeur, c'est à travers donc la publication de Samuel Beckett.
Comment l'exposition d'ailleurs rend-elle compte de l'arrivée de Beckett et de la place de son œuvre aux éditions de Minuit, Anne Renoux?
Alors, nous consacrons une grande partie de l'exposition à l'œuvre de Beckett en montrant l'œuvre par l'édition originale de Molloy, qui est l'œuvre par laquelle Jérôme Lindon a découvert Beckett.
Dont nous avons d'ailleurs écouté, pardon, une lecture par Pierre Chabert.
Et il faut comprendre que Jérôme Lindon a lu Molloy sur manuscrit, et là, on voit un peu, à travers la dédicace de l'exemplaire, l'écriture de Beckett, et on se rend compte que c'était vraiment une gageure de déchiffrer l'écriture de Beckett. Et nous montrons aussi, grâce auprès du département des arts du spectacle, nous montrons le manuscrit d'En attendant Godot, qui avait été donné par Annette Lindon en 2006 pour commémorer le centenaire de la naissance de Beckett. Et c'est un manuscrit très émouvant parce qu'il est sur un cahier d'écolier et il comporte des petits dessins. Et il comporte aussi trois dates de rédaction. La pièce d'En attendant Godot a été publiée par Jérôme Lindon en 52, jouée pour la première fois en 53, mais elle a été écrite bien avant, entre 47 et 49.
Anne Simonin.
Et l'importance d'En attendant Godot, là encore, C'est peut-être une des contributions majeures de Jérôme Lindon à la construction de l'œuvre de Samuel Beckett. Parce que quand Samuel Beckett arrive aux éditions de Minuit, la chose qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est un auteur qui a écrit plusieurs textes en prose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Molloy. On commence par la publication de Molloy. Mais Malone-Meur et l'Innommable et Godot. C'est quelqu'un donc qui arrive avec une œuvre. Et c'est Jérôme Lindon qui va avoir l'idée de l'ordre de publication des textes et qui va intercaler entre Malone-Meur et l'Innommable la publication de Godot. La pièce va être montée quasi immédiatement par Roger Blin qui donc va lui donner cette dimension avant-gardiste et il y a trois ou quatre photos qui subsistent de la première représentation d'En attendant Godot, mais c'est le fait d'avoir compris que pour que Beckett soit lu par un plus large public, il fallait passer par le théâtre. Dans la mesure où Samuel Beckett a toujours posé des conditions extrêmement strictes à la diffusion de ses œuvres, c'est-à-dire que il n'était pas là pour en faire la promotion. Et que c'est son éditeur, Jérôme Lindon, il y avait une petite photo qui était une photo de photomaton de Samuel Beckett, et Beckett ne rencontrait pas les journalistes. Et donc, en quelque sorte, son cordon ombilical au monde, c'était son éditeur. Et là, il va y avoir effectivement quelque chose qui est assez étonnant et tout à fait inhabituel dans le monde des lettres, cette rencontre entre un immense écrivain et un tout jeune éditeur, et comment il va y avoir une sorte de complémentarité. Et je sais que, moi j'avais toujours été très ému par une chose, Samuel Beckett, même les fiches de sécurité sociale, les feuilles de sécurité sociale étaient remplies par Jérôme Lindon qui mettait des croix là où Beckett devait signer. Donc il y a eu cette façon de prendre en charge l'identité sociale de Samuel Beckett et de tenir compte de ce que Samuel Beckett considérait comme l'autonomie de sa littérature.
Samuel Beckett aura le prix Nobel finalement assez vite, en 1969.
C'est Jérôme Lindon qui ira le chercher.
Oui, et Anne Simonin, vous rapportez qu'on parlait déjà de lui pour le Nobel dans les années 50. Quand Solers parle du prix Nobel de Lindon à propos du prix Nobel de Beckett, est-ce seulement une boutade ?
Non, justement, c'est-à-dire que cette complémentarité, l'importance de l'absence. On parlait tout à l'heure de l'absence de la résistance, de l'absence physique, mais jamais Beckett n'a été aussi présent lorsque Jérôme Lindon, dont on a des photos pour la première fois, moi j'ai vu ça en smoking, très étrange, et va chercher le prix Nobel, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a Beckett présent en tant que texte, et le texte de Beckett ne justifie pas sa présence corporelle, quoi. Donc je trouve que même là, c'est un dispositif qui dit assez ce lien consubstantiel qu'il y a entre Jérôme Lindon, éditeur, et Samuel Beckett, auteur.
Comment vit le monde de l'édition au début des années 50 et où se situent les éditions de Minuit dans cet ensemble ?
Alors, les éditions de Minuit se situent aux marges, comme toujours. Elles n'ont jamais... Et alors, Jérôme Lindon avait d'assez bons rapports avec René Julliard. Et il y a un moment donné, je crois, où dans les années... mais plutôt dans les années 54-55, il y aurait eu des velléités de rachat. Mais Jérôme Lindon a toujours souhaité maintenir une certaine taille. C'est-à-dire que la petitesse des éditions de Minuit fait intégralement partie du projet éditorial des éditions de Minuit. Donc elles sont atypiques, marginalisées et extraordinairement affaiblies. Jusqu'en 1962, les éditions de Minuit sont en faillite. Et Jérôme Lindon essaye de faire des miracles avec des réductions de frais généraux. Et donc c'est pour ça, quand on parle de son austérité ou de son ascétisme, lui rentre déjeuner tous les jours chez lui parce qu'il peut pas se payer le restaurant. Et c'est comme ça qu'il va lire Molloy. Et qu'il va lire Molloy parce qu'il change à la station de la Motte-Piquet. Il y a un ascenseur. Il va d'ailleurs risquer de perdre des feuillets du manuscrit. Mais si vous voulez, l'ascétisme de Jérôme Lindon, il est aussi construit sur une certaine histoire des éditions de Minuit. Puis il disait toujours, il vaut mieux qu'on pense que je suis radin parce que voilà, ça me permet de temps en temps d'être généreux. Et ce qu'il était absolument par ailleurs.
Un autre moment important dans l'histoire des éditions de Minuit, c'est l'arrivée d'Alain Robbe-Grillet en 1953. Qu'apporte à cette maison et à Jérôme Lindon cette arrivée ? Anne Renoux.
Eh bien, Alain Robbe-Grillet apporte à la maison une certaine conception de l'écriture romanesque, La volonté de la promouvoir. C'est un homme qui est beaucoup plus sociable que Jérôme Lindon, qui aime bien parler en public, qui aime bien la mondanité, ce que Jérôme Lindon n'aimait pas trop. Et donc, il va aller chercher des auteurs qu'il avait lus, avec qui il partageait cette idée du roman, comme Marguerite Duras, comme Claude Simon, alors Robert Pinget, c'est Beckett qui leur avait présenté. Mais ce sont des auteurs qui auparavant étaient déjà édités chez d'autres éditeurs. Marguerite Duras chez Gallimard, Pinget chez Calman Levy, Claude Simon.
Chez Calman aussi. Pas Butor,
oui.
Et comment la relation entre Lindon et Rob Grier est-elle évoquée dans l'exposition ?
Justement, nous avons la chance d'avoir le prêt pour l'exposition de deux grands tirages des photographes Despatins et Gobelli, où l'on voit Jérôme Lindon et Alain Grier en pied sous la photographie de Samuel Beckett. Et nous montrons... nous avons mis l'édition originale des Gommes dans un cadre boîte au mur pour montrer que c'est le début de leur collaboration en 1953. Et ensuite, nous montrons justement des dédicaces d'Alain Robbe-Grillet qui reviennent sur l'amitié aussi qui les a unis tout au long de ces années. Alors par exemple, justement, la partie qui évoque les combats littéraires des éditions de Minuit est placée, en exergue de cette partie est placée une citation d'Alain Robbe-Grillet, sa dédicace au dernier jour de Corinthe, où il dédicace son livre à Jérôme Lindon, avec qui j'ai porté les valises du nouveau roman. Donc c'est à la fois une référence au combat pendant la guerre d'Algérie, mais aussi à l'alliance stratégique, à la stratégie qu'ils ont mis en place tous les deux pour promouvoir le nouveau roman auprès de la nouvelle critique, auprès de Barthes, pour faire parler de ces nouveaux auteurs.
Comment les éditions de Minuit sont-elles devenues la maison du nouveau roman et comment des auteurs aussi différents se sont-ils retrouvés rangés sous une même bannière ? Dans leurs différences, qu'avaient-ils en commun, Anne Simonin ?
Un certain refus de l'académisme. Et je pense qu'il faut pas... Il y a eu un coup que Rob Grier savait très bien faire, ce qu'a très bien expliqué Anne Renou. Et puis, l'arrivée de Rob Grier aux éditions de Minuit, c'est aussi une question de génération. C'est deux hommes de la même génération. Et donc, c'est un peu la culture pote qui n'arrive pas du tout avant, parce qu'il y a un respect il y a un écart d'âge, et tout d'un coup, il y a effectivement quelque chose qui joue pas les 400 coups, mais c'est quand même un autre type de rapport à la chose littéraire. Il va y avoir cet article d'Émile Henriot, le nouveau roman, mais avec petit N et petit R, et le travail de l'équipe Lindon Rob Grier va être de mettre des capitales.
Rob Grier qui a pris la place de
Georges Lambrix, voilà, qui sera le directeur littéraire, donc il y aura et qui fait ça. Alors Alain Robbe-Grillet était quelqu'un qui avait toujours il y a une ironie extrêmement forte. Il y a des lettres absolument formidables parce qu'ils font des promenades, mais Alain Robbe-Grillet lui pousse sa bicyclette et Jérôme Lindon marche très très vite, donc c'est juste toujours un peu compliqué, mais ils partent en vacances ensemble. Et la seule personne, je crois, qui réussit à faire voyager Jérôme Lindon hors des frontières de l'Hexagone, quand il n'allait pas à la Souterraine pour y rester près de Limoges, c'est Alain Robbe-Grillet. Donc, il y a un rapport à la vie à travers cette littérature du nouveau roman qu'on dit ahistorique, ce qui pour moi est absolument stupéfiant, comme si un auteur comme Claude Simon pouvait être ahistorique. Je connais pas quelqu'un de plus consubstantiel lié à l'histoire que Claude Simon. Et ce qui est aussi le cas d'Alain Robbe-Grillet, qui ne vient pas du même univers politique. Mais il y a une façon de rassembler des gens sous une étiquette, de comprendre que c'est une stratégie de distinction pure, le nouveau roman. Et il y aura un article intéressant publié dans une revue américaine, peut-être considéré comme nouveau roman, un roman publié aux éditions de Minuit. Je pense que c'est la chose qui... finalement, est la meilleure définition de ce groupement d'auteurs.
Anne Simonin, vous avez décrit et attentivement analysé la fameuse photo de Mario Dandero prise en 1959 devant les éditions de Minuit. On peut d'ailleurs la voir à la BNF. Quelle a été l'importance de cette photographie? Comment a-t-elle contribué par sa composition même à bâtir la légende du nouveau roman et des éditions de Minuit?
Ah ça, je pense que c'est assez important parce que c'est tout d'un coup, on voit apparaître un groupe. Donc, il y a, et puis un groupe avec, moi j'ai eu la chance d'avoir accès
au... Peut-être rappeler aux auditeurs qui sont les auteurs et les personnes présentes sur cette photo.
Bah, il y a tout le monde, sauf Michel Butor qu'on attend, et ce qui explique le regard, puisqu'on regarde vers le début de la rue Bernard Palissy. Et puis,
il y a
Claude Mauriac.
Oui,
voilà, il y a Claude Mauriac qui ne devrait pas être là. Et si vous voulez, c'est quand même ce moment dans le champ littéraire, c'est une photo qui date des années 50, c'est, on voit bien toute la réorganisation du champ littéraire et l'importance de la promotion. Et Minuit participe. Alors,
Beckett est sur la photo.
Oui. Donc déjà, quand ça même, suppose voilà. que Jérôme Lindon. Et puis, Alain Robbe-Grillet faisait remarquer que Nathalie Sarraute avait des pieds qu'elle se marchait un peu sur les pieds, ce qui donnait un côté très naturel à une photo qui est extrêmement posée, par ailleurs. Donc c'est un produit qui est pensé et c'est une photo qui connaîtra un succès fabuleux. Les éditions de Minuit, ils passent pas beaucoup à la télévision. Les auteurs, et ça c'est tout d'un coup une façon d'accompagner à mon avis la modernité et d'avoir une vraie politique de communication, ce que savait admirablement faire Alain Robbe-Grillet. Il faut voir le talent qui était celui d'Alain dans les conférences littéraires. C'était quelqu'un qui était absolument passionnant, donc il avait une présence. Alors que Jérôme Lindon lui laissait cette scène-là et se repliait dans le côté rôle d'éditeur aux éditions de Minuit.
Alors pour la petite histoire, Michel Butor a fini par arriver et nous présentons aussi un tirage original de la photo, mais avec Michel Butor.
De cette période du nouveau roman, Anne Renoux, vous exposez d'ailleurs des dédicaces assez exceptionnelles à la BNF.
Oui, puisque nous consacrons deux vitrines à la salve des publications de 1957, le catalogue littéraire de Minuit en 57 et n'est composé que d'auteurs qu'on dira donc du nouveau roman. Alors par exemple, Tropisme de Nathalie Sarraute, elle envoie un exemplaire de l'édition originale avec ce mot « Pour Annette et Jérôme Lindon, en témoignage de grande estime et de son amitié, et aussi de reconnaissance pour avoir redonné, ou plutôt donné, vie à ce livre que son auteur même avait presque oublié. » Puisque Tropisme avait été publié avant la guerre chez De Noël. Nous présentons également l'exemplaire que Alain Robbe-Grillet a envoyé à Jérôme Lindon de La Jalousie, livre qui, avec Tropisme, fait parler à Émile Henriot de nouveaux romans.
Qui a eu le prix de la critique, n'est-ce pas, oui. La Jalousie.
Donc il leur écrit « Pour Jérôme et Annette, merveilleux compagnons d'angoisse, en amitié vive ». Et il joint même une carte où il écrit « À Jérôme Lindon, qui a lu, qui a aimé, qui a édité, point de suspension.
Pour l'éditeur et ses auteurs, à ce moment-là, en quoi ce qu'il est convenu d'appeler le nouveau roman est-il une manière de combat et de contestation, Anne Simonin?
C'est surtout une façon d'installer les éditions de Minuit. Si le nouveau roman rassemble dans une esthétique qu'on dira l'écriture blanche, puisque Roland Barthes va, et la revue critique, il faut parler du travail fait par la revue critique de Georges Bataille à partir de 1946, qui sera un instrument de promotion absolument essentiel du nouveau roman, en publiant des articles de fond, et ce sera le cas de Georges Bataille, et puis ensuite de Jean Piel, qui dirigeront cette revue, qui est une revue absolument fondamentale pour la construction de l'image de la modernité littéraire des éditions de Minuit. Donc, je sais que Jean Paulhan avait la coutume de dire, écoutez, c'est un veau à cinq pattes, allez donc et tentez votre chance aux éditions de Minuit. Mais très vite, le nouveau roman va marquer la maison comme étant une maison qui accorde une importance à la forme absolument décisive. Et à mon avis aussi avec un côté un peu ce que le reprochera Romain Gary par exemple dans Pour Sganarelle, en disant c'est une sorte de dictature de l'université et de la ligne théorique sur le nouveau roman, sur le roman tout simplement, et c'est absolument indispensable, le nouveau roman a tué le récit, le nouveau roman a tué le personnage, on se demande encore qui ou quoi le nouveau roman n'a pas tué. Alors que je pense que c'est fondamentalement une littérature qui comprend qu'il va falloir instaurer un autre type de rapport à l'histoire après Auschwitz. Et ça, c'est la grande... Et donc, comment est-ce qu'on va inventer une forme d'écriture qui est pensée par des gens comme Kerol, qui est pensée par des gens comme Roland Barthes, et comment il faut absolument tenir compte de cet événement, de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, et en particulier du fait que comment écrire après Auschwitz. Et la réponse et l'optimisme des éditions de Minuit, d'un point de vue structurel pour moi, c'est que oui, on peut écrire après Auschwitz, mais non, on ne peut pas écrire comme avant, après Auschwitz.
Peut-on dire que les auteurs du nouveau roman prolongent quelque chose de l'esprit des éditions de Minuit de la période de l'occupation par la manière qu'ils ont d'aborder la littérature, Anne Simonin?
Ah, oui, absolument. Voilà, on peut commenter là-dessus, mais c'est surtout ce qui pour moi est important, c'est de ne pas admettre la vision déshistoricisée de la littérature du nouveau roman. Pour moi, c'est un grand mensonge et c'est une vision totalement révisionniste de l'histoire. C'est au contraire une littérature absolument historique.
Le procès du réseau Francis Janson se terminera cette nuit. On doit entendre encore 3 plaidoiries, occupant peut-être 5 ou 6 heures d'audience. De plus, le tribunal ayant à juger 26 cas, la délibération et la rédaction du jugement seront vraisemblablement très longues. Le verdict ne sera donc connu que vers le milieu de la nuit. Par ailleurs, aucune information n'a encore filtré sur le sort qui sera réservé aux 5 personnes retenues par la police à la suite de l'opération qui s'est déroulée hier et au cours de laquelle 11 membres du comité directeur de Vérité et Liberté ont été interpellés et conduits au Quai des Orfèvres.
Les 5 personnes finalement retenues, messieurs Paul Thibault, directeur de Vérité et Liberté, Jacques Panigel, secrétaire du comité Audin, Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, Robert Barra, journaliste à Témoignages chrétiens, et Marcel Péju, secrétaire de la revue Temps Moderne, sont soumises à une garde à vue qui doit durer au maximum 5 jours. Les enquêteurs ont agi en vertu d'une commission rogatoire lancée par Monsieur Pérez, juge d'instruction, qui procède à l'information relative au manifeste des 121.
Nous venons d'entendre un extrait des actualités du 1er octobre 1960 sur Paris Inter, évoquant la fin du procès Janson et rapportant l'arrestation de Paul Thibault, Jacques Panigel, Robert Barra, Marcel Péju et Jérôme Lindon. Au regard de l'histoire des éditions de Minuit et au regard de la propre histoire de Jérôme Lindon, l'engagement au moment de la guerre d'Algérie peut paraître naturel et évident. Pourtant, l'implication dans cette lutte politique d'un éditeur chargé d'âme, chef d'entreprise, n'allait peut-être pas de soi. Comment s'est traduit concrètement l'engagement de Jérôme Lindon et des éditions de Minuit? Comment s'est-il organisé au sein de la maison Anne Simonin?
Oui, que ça n'aille pas de soi, c'est une évidence, parce que il y avait une façon de réprimer qui a été assez claire tout de suite des publications de la presse, comme éventuellement de l'édition, mais de la presse surtout, qui s'attaquait au problème de la guerre d'Algérie qu'on n'appelait pas guerre. Je rappelle que la guerre d'Algérie, il faut attendre 1999 pour qu'on parle de véritable guerre, on parle des événements. Rien ne va de soi en l'occurrence, et là, il y a une sorte de ligne directe avec le passé résistant et la constitution, mais en même temps aussi une invention, puisque, en gros, ce sont les éditions de Minuit qui vont constituer la torture comme problème politique. La mobilisation contre la torture, elle vient des intellectuels catholiques. Et alors justement, c'est là où il y a un lien avec les prêtres ouvriers. Enfin, des gens qui ont été absolument magnifiques. Et qui ont justement, donc dénoncé la torture, mais dénoncé la torture d'un point de vue moral. Et c'est à partir du moment où les éditions de Minuit vont s'emparer de la question d'Henri Alleg, qui est donc le premier... non pas le premier texte dénonçant la torture pendant la guerre d'Algérie, puisque c'est pour Djemila Bouhired de Georges Arnaud et de Jacques Vergès, à l'automne 1957, mais quand les éditions de Minuit vont décider de publier ce qui s'appellera La question, qui est un titre de Jérôme Lindon, le manuscrit initial s'appelait Interrogatoire sous la torture, donc rédigé par Henri Alleg, communiste et directeur de Alger républicain, et interné au centre d'El Biar, là, il y a quelque chose qui va basculer parce que c'est la publication d'un texte d'un Européen. Et c'est très important qui a été torturé, qui ne publie pas de façon anonyme et qui sait raconter une histoire. Moi, je sais que j'ai toujours été étonnée par ce que pouvaient dire les avocats qui défendaient les Algériens qui avaient subi la torture. C'est que c'était des gens pour qui c'était difficile. Vous savez, il n'y a rien de plus qui ressemble à un torturé qu'un autre torturé. Donc, vous avez des rapports médicaux. Vous voyez très bien que, effectivement, il y a des traces partout sur les corps. Mais comment mettre ça en récit? Et ce qu'il y a de très important avec Henri Alleg, c'est que vous savez quelqu'un qui est pas simplement un militant communiste, mais qui est un homme qui sait écrire et qui va raconter d'une façon telle, puisque Jérôme Lindon n'a pas la preuve de la vérité de ce que raconte Alleg, sauf qu'il a la forme. Et ça, c'est une chose qu'il a toujours dit. Il ne sait pas si ce qu'Alleg raconte est vrai, mais il sait que Alleg dit vrai. Et ça va suffire, en quelque sorte. Alors, pour le pousser à la publication, là encore, rôle absolument fondamental de Raymond Lindon, qui est une des rares personnes mises dans le secret de publication de la question, parce que Raymond Lindon lui dit que ils savent que le livre risque d'être saisi, il y a de très très fortes chances pour ça, et Raymond Lindon considère qu'il démissionnera de ses fonctions d'avocat général auprès de la Cour de cassation pour redevenir avocat et défendre son fils. Et puis, le deuxième complice dans le cadre de la question, c'est évidemment Pierre Vidal-Naquet. Pareil, Jérôme Lindon fait la littérature au nouveau roman avec Alain Robbe-Grillet, mais il fait la guerre d'Algérie avec Vidal-Naquet. Et là, pareil, c'est des milieux sociaux assez comparables. C'est des hommes de la même génération. Et Pierre Vidal-Naquet va lire la question avant, sera un des très rares à lire la question avant parution.
On peut donc évoquer l'affaire Audin, une des publications des éditions de Minuit. L'affaire Audin, jeune mathématicien militant du Parti communiste algérien et de l'indépendance pour l'Algérie, est revenue récemment dans l'actualité avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans son assassinat. On doit rappeler ici le travail accompli par Pierre Vidal-Naquet il y a maintenant 60 ans pour la manifestation de cette vérité. Un travail auquel a aussi participé activement Jérôme Lindon, Anne Simonin.
Oui, voilà, je dirais de façon peut-être un peu provocatrice parce que je trouve que leurs noms ne sont très curieusement pour moi pas du tout mentionnés. L'affaire Audin, c'est aussi un titre de Jérôme Lindon. Et c'est une enquête que ils vont mener avec Pierre Vidal-Naquet et c'est une méthodologie qui est extrêmement intéressante. Et c'est là où je trouve que il y a à la fois le risque pris sur le moment, puisque il va y avoir, on va lier les deux affaires, l'affaire Alleg et l'affaire Audin, qui d'ailleurs se connaissent, tous les deux sont communistes, vont être liés, puisque la première fois où l'on parle officiellement pour critiquer la thèse de l'évasion de Maurice Audin, de l'affaire Audin, c'est dans un texte de février 58 qui est inséré dans chacun des exemplaires de la question et qui est rédigé par Pierre Vidal-Naquet. Et puis, Jérôme Lindon et Pierre Vidal-Naquet vont en quelque sorte traiter la vérité officielle du point de vue du roman policier. C'est vraiment intéressant parce que je suis pas sûre qu'il y ait l'affaire Audin aux éditions de Minuit s'il n'y a pas les gommes de Robbe-Grillet. Et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cette vérité officielle. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai relu récemment ce livre qui est un très grand livre. C'est pas simplement un livre politique, l'affaire Audin. D'un point de vue méthodologique, ce qui ne va pas, c'est que vous pouvez pas faire 600 mètres en 10 minutes. Si vous faites 600 mètres en voiture, vous les faites en une minute. Donc, le lieutenant Charbonnier, quand il dit qu'il a mis 10 minutes pour faire 600 mètres, il ment. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne pouvez pas interroger Maurice Audin sur un camarade pour ensuite dire qu'il vous a répondu sur un autre. Ça veut donc dire qu'il y a eu deux interrogatoires de Maurice Audin. Et, si vous voulez, la façon dont ils construisent, dont ils déconstruisent plus exactement Jérôme Lindon et Pierre Vidal-Naquet, la vérité officielle de l'affaire Audin, sans dire, on sait qui a tué, mais on sait que ce que vous nous vendez là, c'est faux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est une affaire Dreyfus immédiate. D'abord parce que de l'affaire Audin vont naître les comités Audin, qui vont mobiliser tout le milieu universitaire, que Laurent Schwartz, qui est un très grand mathématicien, va signer la préface du livre et va parler de révolte de l'université, qu'on va créer un prix de mathématiques Maurice Audin, et je pense que, peut-être que condamner la torture aujourd'hui, ça serait bien de recréer le prix de mathématiques qui a, d'après Pierre Vidal-Naquet, été distribué 3 fois. Je suis sûr qu'il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser. Dans l'héritage positif de ce qu'est la pensée de Maurice Audin, plus l'organisation d'une soutenance de thèse in absentia qui va attirer beaucoup de monde à la Sorbonne. La mobilisation des intellectuels contre la torture pendant la guerre d'Algérie, elle se fait par ces comités Audin qui sont plus ou moins bien vus par le Parti communiste parce que, normalement, le Parti communiste eût souhaité que la mobilisation des intellectuels se fasse dans le cadre des comités pour la paix que le Parti contrôlait totalement. Et ce sera l'autonomie de la lutte des intellectuels que de passer par les comités Audin. Donc, c'est vraiment important. Enfin, ce qui se passe actuellement est évidemment absolument essentiel. Oui, la responsabilité de l'État français est engagée dans le cadre de la torture de la guerre d'Algérie. Mais je suis pas certaine que ce qui s'est passé à l'époque ne soit pas au moins aussi extraordinaire.
Comment l'engagement de Lindon et de Minuit durant la guerre d'Algérie est-il évoqué dans l'exposition, Anne Renaud ?
Là encore, nous consacrons à cet engagement un grand nombre de documents assez exceptionnels. Par exemple, justement, l'exemplaire offert par Pierre Vidal-Naquet à Jérôme Lindon de l'affaire Audin, dans la dédicace duquel il lit sa dette à son éditeur. Il lui écrit « Pour Jérôme Lindon, à qui ce livre doit tout à commencer par l'existence ». Nous montrons également une des rares publications du Manifeste des 121, justement dans le journal Vérité Liberté, qui était un journal consacré aux événements d'Algérie, dont Pierre Vidal-Naquet était un des principaux animateurs. Le Manifeste des 121, tout le monde en parlait à ce moment-là, mais...
Autre titre de Jérôme Lindon, voilà. C'est lui qui met le chiffre 121, qui dit toujours parce que ça sonnait bien. Et c'est lui qui limite le nombre des signatures et qui trouve le titre, puisque c'est le manifeste sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie.
Ainsi que des documents comme le témoignage de Francis Janson, qui était le directeur du réseau des porteurs de valises, intitulé « Notre guerre », et qu'il dédicace à Jérôme Lindon alors qu'il est caché, puisqu'il est menacé d'arrestation.
Et que Jérôme Lindon propose de rendre au Seuil, qui est l'éditeur de Francis Janson, l'après-midi où le livre est saisi. Et je sais que sur la dédicace que Francis Janson, qui est un auteur du Seuil, qui aurait dû être publié au Seuil, donc a remise à Paul Flamand, il était marqué la chose suivante, ce livre que j'aurais tant aimé recevoir de vous, et qu'il recevait des mains de Jérôme Lindon, qui avait fait composer le titre en 2 parties, et le nom d'auteur aussi en 2 parties. Ne partageant pas nécessairement les mêmes opinions politiques que son chef de fabrication qui était Claude de Capdenac, qui, le dit Claude de Capdenac, savait pertinemment ce qui était en train de se jouer et je pense se serait fait plutôt trucider que d'affirmer son désaccord politique avec Jérôme Lindon à ce moment-là.
Cette période 55-65 est donc à la fois la période du nouveau roman et de l'engagement lié à la guerre d'Algérie. L'étiquette nouveau roman colle à l'histoire, à l'image des éditions de Minuit encore aujourd'hui, au point d'avoir peut-être masqué parfois la diversité de leur catalogue. Minuit, c'est aussi le théâtre, la poésie, les philosophes. Que représente notamment pour une maison comme Minuit l'édition de Bourdieu, Derrida, Lévinas ou Deleuze? Comment les sciences humaines s'inscrivent-elles dans l'histoire de Minuit, Anne Simonin?
C'est un moment dans les années 60 qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que il va y avoir la création du sens commun à partir de 1965, mais ça commence un peu avant, à partir de 1963. C'est des bases eaux littéraires pour les éditions de Minuit, à l'exception de deux auteurs, Tony Duvert et Monique Wittig, qui sont des moments où Jérôme Lindon va croire à nouveau à la littérature. Mais il est très clair que avec la collection Argument, avec la collection Le Sens Commun, avec la collection Critique, les éditions de Minuit des années 60-70 vont faire une entrée en force dans le monde des sciences humaines. Alors, c'est l'explosion des publics universitaires et là encore, c'est un dialogue très étroit, c'est un dialogue à mi-ennemi très étroit avec Gallimard, puisque il faut répondre en quelque sorte à la bibliothèque des histoires et à la bibliothèque des sciences humaines lancée par Pierre Nora chez Gallimard. Et il y aura donc chez Minuit, une orientation politique qui est celle de Pierre Bourdieu, qui donc pendant des années sera le sociologue maison. Et Pierre Bourdieu qui va d'ailleurs contribuer à créer une certaine image des éditions de Minuit par ses articles théoriques, en faisant toujours des éditions de Minuit un auteur d'avant-garde. Et d'ailleurs en prenant Minuit comme exemple type de ce qu'est le marché des biens symboliques. Donc il y a un rôle qui est extrêmement important des sciences humaines, et il est probable que ce que vous notez de cette image de la prégnance du nouveau roman, Minuit la doit évidemment au travail de Rob Grier, mais je pense au moins autant au travail de Pierre Bourdieu. Parce que Minuit ne peut pas être une maison d'arrière-garde, parce que ça rentre pas dans le cadre de la théorie de Bourdieu. Et donc, il y a une façon de voir que la littérature parfois plus traditionnelle qui est publiée aux éditions de Minuit a moins de visibilité parce que il y a une construction théorique du modèle de ce qu'est la petite maison littéraire d'avant-garde par le biais donc des théories de Pierre Bourdieu. Et là encore, il y a une sorte d'échange incroyablement dynamique entre l'éditeur Jérôme Lindon, la maison édition de Minuit et le sociologue Pierre Bourdieu.
Anne Renoux aussi par le biais de l'Algérie, puisque oui. Pierre Bourdieu effectue son service militaire pendant la guerre et à l'occasion de la publication de ses premiers travaux plus d'ethnologue à ce moment-là, il va les présenter à Jérôme Lindon pardon. Et c'est ainsi que se noue leur aventure.
Reste que le grand interlocuteur de Jérôme Lindon sur la guerre d'Algérie, c'est Pierre Vidal-Naquet.
Oui, bien sûr. Voilà, mais disons que la rencontre, sans doute, l'image aussi qu'avait Bourdieu de la maison, c'est aussi l'image à ce moment-là d'une maison engagée qui est ouverte à justement une approche de la société et de la réalité sociale.
Absolument. Et vous avez raison de souligner l'impact littéraire de la guerre d'Algérie, notamment de la question. C'est Bernard Charder qui disait, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer autour de la question. Et notamment des gens comme Ricardou, comme des jeunes auteurs vont considérer que, à cause de ce livre emblématique, eh bien, c'est là qu'ils veulent publier la littérature qui les intéresse.
Après le nouveau roman, quels ont été les moments clés, les tournants dans l'histoire de Minuit? Les années 80 en particulier apparaissent comme des années fastes pour la maison. Comment l'expliquer, Anne Simonin?
Écoutez, je ne suis pas plus douée pour les cycles littéraires que pour les cycles économiques. D'abord, il y a Monique Wittig, j'insiste, et puis Tony Duvert. Tony Duvert qui est un auteur... peut-être un peu méconnu, qui est mort récemment et qui est un auteur très important sur ce qu'il fait concernant la langue enfantine et la transcription de la langue et du monde de l'enfance dans un cadre littéraire. Monique Wittig aussi, dans le cadre de l'Opoponax. Et donc là, c'est toute la dimension littérature courant, LGBT. Donc qui raccroche Minuit à une époque qui est celle du post-68. Et puis... l'arrivée dans 79 de Jean Echenoz, puis de Jean-Philippe Toussaint avec la salle de bain en 1985, et tout d'un coup, effectivement, un flux de jeunes auteurs, alors que j'ai pas envie de dire Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint sont les arbres qui cachent la forêt, mais effectivement, que ce soit Tanguy Viel aujourd'hui, Laurent Mauvignier, on voit bien qu'il y a un style Minuit, qu'il y a des auteurs qui vont contribuer à faire vivre ce style Minuit sous le biais d'une école peut-être minimaliste, où je pense que la subversion des genres et le refus d'un certain type d'académisme jouent un rôle fondamental. La maîtrise de la langue, et notamment le niveau de grammaire, en réécoutant les entretiens de Jérôme Lindon, j'étais assez stupéfaite par le niveau de français oral. Et donc, il avait comme ça le gréviste dans son bureau et était capable de dire que, enfin, d'un point de vue de grammaire, c'était juste pas possible. Je sais toujours pas si on accorde ou pas l'adjectif marron. Je crois que c'est un des seuls adjectifs qui ne s'accorde pas. Et je sais qu'on ne met pas de trait d'union à compte-rendu. Il faut pas le faire. Donc, quand on me dit c'est pas vrai, je dis, bah, écoutez, parlez-en à Jérôme Lindon, c'est lui qui m'a interdit de le faire. Donc, il y a ce niveau refus de l'académisme, il y a un rapport à la langue qui est absolument essentiel. Et aussi une ironie qui fait que l'esprit de sérieux aux éditions de Minuit, c'est quelque chose qui est presque considéré comme une absence de, enfin je sais pas, une forme d'incivilité.
Ces auteurs, ces nouveaux auteurs, cette nouvelle génération, Anne Renoux, sont présents également dans l'exposition de la BNF.
Oui, ils terminent l'exposition avec également des photographies Les montrons aux côtés de Jérôme Lindon ou d'Annette Lindon. Nous montrons des exemplaires aussi où ils disent dans leur dédicace leur admiration et leur reconnaissance et la fierté qu'ils ont aussi d'être édités dans cette maison. Parce que justement, dans ces années 80-90, là, le rapport générationnel s'est inversé. Jérôme Lindon est un peu comme leur père en littérature. Enfin, ils ont aussi, ce qui les rassemble aussi, c'est pour beaucoup une commune admiration pour Beckett. Par exemple, c'est Éric Laurent qui parle de son rapport justement presque filial à Jérôme Lindon. Nous montrons un exemplaire des Atomiques d'Éric Laurent où il écrit à Jérôme Lindon respectueusement, amicalement, presque filialement en somme. Et cette dédicace résume, symbolise un peu ce nouveau rapport des nouveaux auteurs avec Jérôme Lindon.
Oui, moi je filerai pas trop la métaphore familiale, parce que je pense qu'il y a... je suis pas sûre que Jérôme Lindon se voit sous la forme du père. Et parce qu'il y a une façon, je pense que c'est quelqu'un qui, dans son rapport au présent, voulait pas se voir vieillir, et d'ailleurs réussissait à ne pas le faire en conservant une formidable disponibilité. Et je pense qu'il y avait une distance qui était... qui était toujours maintenu, qui était peut-être son ethos de grand bourgeois ou mais qu'on n'était pas à aucun moment, peut-être que, alors c'est l'image que je me fais du père, où il y a une forme de familiarité. Je peux vous assurer que la familiarité avec Jérôme Lindon est une chose qui serait venue à l'esprit de peu de gens. Voilà.
Merci Anne Renaud et Anne Simonin. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette nuit consacrée aux éditions de minuit, après avoir écouté Pour une brève histoire du nouveau roman par Alain Robbe-Grillet en 2003, le troisième temps de La voix nue de Jérôme Lindon au micro de Jean-Maurice de Montrémy en 1994, Michel Butor présentait son roman La Modification, prix Renaudot en 1957, sur les ondes de la radiodiffusion Télévision Française, le quatrième temps de La voix nue de Jérôme Lindon en 1994, un entretien avec Claude Simon au micro de Monique en 1976, puis le cinquième et dernier temps de La voix nue de Jérôme Lindon en 1994. La nuit des éditions de minuit se poursuit sur France Culture.